Sénégalais Ibrahim Baye qui s'affronteront ce dimanche en finale de la CAN au Maroc. Demain, match pour la troisième place entre le Nigeria et l'Égypte. À vous, Juan Gomez.
Merci, Nemo en Peace. Bonne journée. Restez avec nous. On revient dans tout juste 30 secondes.
Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Radio G. 101.5 FM.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Bonjour Sophie.
Bonjour Karine. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Avant de commencer, si vous souhaitez réagir sur notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr.
Alors aujourd'hui nous recevons Zélie et Sacha.
Bonjour.
Bonjour Zélie, bonjour Sacha. Comment ça zozoter? Nous allons parler de l'association Une Marche de Taille que Zélie, tu as créée. Alors, dis-nous tout.
Exactement. Donc, j'ai créé l'association Une Marche de Taille en mai 2025. Donc, pourquoi j'ai créé cette association? Donc, moi, je suis atteinte de nanisme. Donc, le nanisme, ça se caractérise donc par une petite taille. Donc, le nanisme, c'est un grand mot, on va dire. Ça correspond à plusieurs maladies. Il y a à peu près 500 pathologies qui regroupent le nanisme. Alors, il y a des pathologies beaucoup plus connues que d'autres, notamment à la chondroplasie. Donc, moi, j'ai la cousine de cette maladie, donc qui s'appelle l'hypochondroplasie. Donc, une mutation en fait d'un gène et donc qui va créer notamment donc une petite taille et des problèmes osseux. Et cette maladie, je vis avec tous les jours. Et je suis pas hyper grande, hein, je fais 1m38, donc dans la vie c'est pas hyper pratique. Et j'ai créé cette association car moi j'ai un peu un côté militantisme et c'est surtout que je veux faire connaître au mieux ce nanisme qui est en fait très peu connu malgré que ça soit un handicap très visible. Et donc cette association elle a vraiment pour but de sensibiliser au nanisme donc auprès du grand public. Donc notamment dans des écoles, dans des collèges, mais aussi auprès d'entreprises pour montrer que oui c'est un handicap qui peut être handicapant, mais faire de nombreuses choses avec ce handicap et on n'est pas c'est pas parce qu'on est petit que qu'on ne peut rien faire.
Tu as quel âge?
J'ai 18 ans.
D'accord. Donc tu es au lycée?
Exactement.
OK. Et est-ce qu'au lycée on a mis les bureaux adaptés pour éviter que tu fatigues peut-être au niveau des jambes? Alors je sais pas si tu peux fatiguer au niveau des jambes.
Alors,
comment ça se passe?
Effectivement, je peux fatiguer au niveau des jambes parce que moi j'ai jamais les pieds qui touchent par terre.
Ben, c'est ça, oui.
Moi au lycée effectivement, je peux avoir mon tabouret c'est un petit tabouret que je mets pour reposer mes pieds. Après, effectivement, c'est un aménagement qui peut être compliqué à mettre en place parce que notamment dans le collège où j'étais ou même le lycée, donc qui sont des établissements publics, et ça a été très compliqué parce que faut faire des demandes d'aménagement et en fait ces demandes d'aménagement elles se font à un temps précis avant la rentrée et quand on arrive après la rentrée, ils acceptent pas parce que c'est des budgets en fait qui sont très serrés et ils peuvent pas dépasser les budgets. Donc à chaque fois ils ont dû se débrouiller et en fait ils m'ont fait des tabourets faits maison. Donc ça montre aussi que un peu le manque d'inclusion et que c'est à nous en fait de revenir, enfin nos frais, enfin tous ces aménagements sont à nos frais. Et en fait, ces budgets-là, faudrait qu'ils soient étendus sur toute l'année parce que ils les ferment avant la rentrée, alors qu'en fait, ils savent pas quel type d'élèves ils auront à la rentrée. Et donc derrière, il y a une incohérence de tout ça, en fait.
Oui, oui, je comprends bien. Oui. Et vous êtes plusieurs dans l'établissement ou tu es toute seule ou
Atteinte de nanisme, oui. Je suis la seule. Après, on est tous de tailles différentes, mais vraiment atteinte de nanisme, je suis la seule.
D'accord.
Quel est le critère, en fait? Pour parler de nanisme, et une taille
Oui, alors le nanisme, chez la femme, c'est moins d'1m40, et chez l'homme, c'est moins d'1m45.
D'accord.
Voilà, après, des fois, ils font des exceptions un peu, mais en général, c'est leur critère, et ça permet aussi, des fois, en aide d'être vraiment reconnu avec ces tailles-là,
oui.
Comme étant atteint de nanisme.
Donc, il y a un âge auquel on voit plus comment, je sais pas comment dire, ça va être maladroit mon affaire, mais parce que la croissance, elle se termine plus tard, enfin chez les adolescents.
Mais toi, c'était à la naissance ou c'était
Alors moi, au début, ça c'est pas le nanisme, c'est ça peut se découvrir quand la femme est enceinte, mais souvent c'est pas trop le cas. Moi, c'est parce que quand je suis née, ils ont trouvé que j'avais les jambes très arquées, parce que ça, du coup, le nanisme, ça touche vraiment les os et ça crée donc des beaucoup plus petits os. Donc mes hanches étaient très arquées et c'est là où ma mère s'est quand même posé des questions. Et en fait, elle voyait bien que je grandissais pas, parce que j'avais un poids et une taille normale à la naissance, mais par la suite de ça, je grandissais vraiment très peu comparé à d'autres bébés. Et donc c'est là où elle s'est posé des questions et les médecins lui ont dit mais non, vous inquiétez pas. Et à un certain temps, elle a dit non mais c'est quand même pas possible, enfin je grandissais pas du tout. Et du coup ils ont décidé de faire des tests génétiques et du coup là ils ont vu que j'étais atteinte de la maladie donc d'hypochondroplasie. Et après ils ont fait les tests du coup chez mes parents qui ne sont pas porteurs de la modification de ce gène en fait. Et comme souvent chez le nanisme, c'est pas héréditaire en fait, c'est une mutation génétique qui arrive comme ça. Même des fois chez les parents du coup qui sont atteints de nanisme, leurs enfants sont pas forcément atteints de nanisme. Ça peut arriver, mais c'est pas des fois c'est vraiment surtout lié à la mutation génétique. Il y a pas forcément de lien de parenté.
D'accord. Donc chez vous, tes parents, ils ont tout mis en place justement pour que tu sois le plus à l'aise pour manger, tout ça. Comment vous faites
C'est vrai que ça a été un peu la mise en place d'aménagement. Alors après, quand j'étais petite, pas forcément, parce qu'effectivement, j'étais un peu plus petite. Mais on va dire, quand c'est des enfants, c'est beaucoup plus facile. Mais effectivement, quand j'ai commencé à grandir, notamment, je pense au collège ou au lycée, là, ça a été vraiment la mise en place. Enfin, pas vraiment d'aménagement, mais chez moi, ce qui me pose le plus de problème, on va dire, c'est dans la cuisine, parce que il y avait beaucoup de choses en hauteur, parce que les placards sont majoritairement en haut. Donc, ils ont aménagé quelques trucs. Et puis après, j'avoue que moi, j'aime pas non plus trop qu'on aménage trop, parce que j'aime pas me sentir non plus trop différente. Donc après, je me débrouille, je prends une chaise, un tabouret. Enfin, j'avoue. Cette maladie-là, en fait, elle nous oblige à nous adapter un maximum, quoi. Donc,
Et t'as des frères et sœurs ?
Oui, j'ai un grand frère. D'accord. Et lui qui n'est pas atteint de cette pathologie.
Et donc, t'es accompagné de Sacha, donc un camarade de classe.
C'est ça.
C'est ça. Donc, c'est comment la relation avec les autres ? Comment. Tu vois, s'il y a des personnes qui nous écoutent et toi qui as 18 ans, qu'est-ce que tu pourrais donner comme. Comme espoir, parce que par l'adolescence, ça ne doit pas être si évident que ça. On peut se poser plein de questions. Donc qu'est-ce que tu peux dire, Sacha ?
Comment dire ? Après, c'est vrai que la relation avec les amis, ça peut être compliqué quand on est atteint d'un handicap, parce qu'on ne sait pas trop comment les autres réagissent, comment notre handicap comment les autres regardent notre handicap et tout. Moi, j'ai envie de dire à mes potes qui ne me considèrent pas comme handicapé, enfin, beaucoup de potes d'ailleurs me considèrent pas comme handicapé. Hein. Ils m'ont dit...
C'est considéré comme un handicap ?
Alors le nanisme en soi c'est un handicap parce que nous dans au quotidien c'est handicapant, oui. Mais officiellement dans la loi c'est pas reconnu comme handicap et c'est là que ça pose problème pour se demander certaines aides parce qu'on n'a pas le choix en fait pour des fois on aimerait bien bénéficier d'aides pour certains trucs parce qu'on peut pas tout faire. On a besoin de postes d'aménagement et c'est là où ça pose problème. Mais après, au terme de mes amis, ils me considèrent comme une personne normale et moi, c'est ce que je veux. Après, oui, effectivement, des fois, je vais avoir mal aux genoux. Des fois, je vais leur dire stop, finalement, je peux pas. Bon, des fois, je leur cache aussi. Hein. Ça, ils m'apprécient moins quand il y a ça. Mais après, je garde. Enfin, j'ai pas envie qu'on me considère comme une personne handicapée. Et puis, après, effectivement, j'ai moins d'amis. Alors, je me dis, après, moi, je suis aussi quelqu'un un peu de solitaire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui me disent, mais comment faire avec ton handicap et tout? Je fais, faut pas vous poser de questions. Moi, je m'adapte et voilà. Mais même eux, des fois, ils sentent que, ils sortent avec quelqu'un différent parce que dans la rue, même dès que je suis seule ou en groupe, souvent les gens vont se retourner sur moi parce que, effectivement, je suis plus petite et.
Non, mais voilà,
déjà, le regard des autres, je te dirais
Non, mais on arrive on est en 2026.
Tout le temps.
C'est ça.
Malheureusement,
il va falloir que les gens ils s'ouvrent quand même, qu'ils s'ouvrent à tout ça, parce que la différence, quoi. Ouais. Ça peut pas.
Et donc justement, l'association, vous êtes combien ? Comment ça se passe ?
Alors c'est vraiment une toute petite association que j'ai créée. C'était juste pour être plutôt reconnue en termes d'État. pour faire plus crédible, notamment pour la création de projets ou de choses comme ça, pour voilà être reconnu en termes vraiment associatifs. Je l'ai créé avec quelques amis plutôt pour un aspect administratif, mais on n'est pas énormément. Enfin, c'est pas une association que j'ai développée énormément en termes d'adhérents, etc. Après, cette asso, c'est plutôt sur les réseaux sociaux où là, je vais être un peu plus impliquée, notamment que ce soit sur Facebook ou Instagram, où là, je vais plutôt montrer quelques vidéos, un peu l'avancement aussi de projets ou aussi que les gens en apprennent un peu plus sur le handicap, sur le nanisme surtout.
C'est quoi tes projets ?
Mes projets, fin juin, début juillet, donc 2026, j'ai comme projet donc de parcourir 420 km, donc de Nantes à Brest, donc par le canal. Et alors cette marche qui peut paraître un peu folle, souvent quand je dis ça aux gens, ils me regardent un peu en mode OK, tu nous fais quoi là ? Et en fait cette marche, surtout c'est pour sensibiliser au handicap. J'aimerais du coup pouvoir essayer d'être en partenariat avec des associations pour parler de handicap, pas forcément le nanisme, mais aussi voir comment eux ils peuvent sur le regard des autres, faire vraiment de la sensibilisation et vraiment faire connaître le nanisme, parce que les gens en fait ils ne connaissent pas forcément le nanisme, ils vont le connaître en mode ils le voient en termes de, ils vont voir du coup que la personne est atteinte de petite taille, mais c'est que l'extérieur, mais le nanisme ça provoque beaucoup d'autres choses, et donc c'est aussi sensibiliser à ça, sensibiliser aussi dans les entreprises, dans les écoles, etc., parce que toute personne atteinte de nanisme subit énormément de moqueries, mais aussi de discrimination en termes de travail. C'est très compliqué pour trouver du travail, il faut avoir une bonne détermination parce que c'est vraiment pas simple. Et donc c'est pour montrer ça, et puis montrer aussi, moi on m'a dit mais en fait t'es capable de rien en termes de sport, en termes de marche, etc., et alors que j'ai envie de leur dire non, en fait je suis capable de beaucoup beaucoup de choses, et du coup je veux leur prouver en fait le contraire et dire que les 420 km je vais peut-être souffrir un peu parce que je peux avoir mal, mes os des fois ils me laissent souvent pas trop de répit, mais leur montrer que je suis capable de ça en fait, c'est pas mon handicap qui va m'arrêter dans ça.
Donc tu pars avec plusieurs personnes, tu pars avec d'autres personnes aussi à l'année, ça se passe comment ?
Pour l'instant, alors c'est un projet que je suis en train de monter au petit à petit. Je vais être là, on va dire, je vais partir seule sur le moment, et après en fait, je vais être accompagnée de plusieurs personnes au fur et à mesure. Enfin, tous ceux qui viendront venir marcher, en fait, ils seront les bienvenus. Et puis voilà, il y a des amis qui marcheront avec moi. Je vais pas faire un truc que autonome, parce que c'est une marche que j'ai prévue à peu près en 18-20 jours. Donc, j'ai pas non plus envie d'être solo et c'est pas mon but. Voilà.
Donc, tu vas réserver tes logements, tu vas faire comment?
Du coup, moi, j'ai prévu de faire au camping parce que même au niveau terme budgétaire, c'est quand même plus simple. La marche, ça serait sur le canal de Nantes à Brest, donc un canal assez connu. Alors, souvent, les gens le font plus à vélo que...
Ou en bateau.
Ou en bateau, exactement.
Que... Je sais pas, parce que je l'ai fait.
Ah bon? C'est en bateau que tu l'as fait?
Je l'ai fait en bateau, c'est génial. Je le conseille.
Que à pied, mais, donc le but, c'est de rencontrer les gens, etc. Et faire au camping et puis, arriver à Brest à la fin, quoi.
Donc là, tu vas prendre des rendez-vous avec des associations, tu vas faire comment, en fin de compte?
Là je suis justement en train de regarder un peu tout ça, regarder un peu les associations qui seraient intéressées, pourquoi pas. Ce que j'aimerais voir, c'est dans les quelques villes un peu importantes que j'ai pu voir, pourquoi pas organiser une soirée un peu rencontre ou un peu débat sur justement le handicap. Je parle pas que du nanisme, on peut l'intégrer, mais en fait il y a plein d'autres handicaps, c'est pas que le nanisme qui est discriminé, etc. En France on a vraiment un réel problème d'inclusion du handicap, malgré la loi de 2005 qui est... Pourtant, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe, mais bon, elle n'a pas été encore totalement mise en place. Et le but, c'est d'échanger, dire qu'il existe plein d'handicaps, mais aussi faire changer aussi le regard des gens. Moi, j'aimerais dire aussi en termes d'entreprise qu'ils apprennent que recruter des salariés handicapés, c'est pas un poids pour eux. Déjà, ils bénéficient d'aides assez importantes. Et en fait, il faut peut-être aménager un peu les postes, mais ça va pas leur faire perdre un bénéfice, on va dire, et ça peut leur faire gagner même des choses, parce que ça les personnes handicap, elles sont comme toutes les autres, quoi, elles ont des compétences, elles ont plein de choses, et c'est aussi montrer que il faut inclure, et même en termes d'école ou de lycée, etc., faut inclure tout le handicap, quoi, qui est aujourd'hui.
Moi, j'avais rencontré une PNK, c'était le contraire, très, 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 très grand. Et en entreprise, c'était aussi, je me rappelle, l'entreprise avait mis des choses en place pour rehausser le bureau de ça. Ah, parce qu'il avait toujours mal au dos. Ah, oui, c'était une.
Je sais pas si c'est mieux, en fait. Non, je vois.
Bah, le, de toute façon, tout est fait pour des normes. Alors, de toute façon, on rentre dans la norme. Si on rentre pas dans la norme, bah, que ça soit émotion, tout, il faut rentrer dans la norme.
C'est ça.
Donc, dès qu'on est hors norme, ça va pas.
Exactement.
Ouais. Mais c'est triste, hein, quand même. Ouais.
Et donc là, t'es en terminale?
Exactement.
D'accord. Et nous, c'est quoi tes projets futurs? Tu vois, les, quand on parle de métier, tout ça, tu souhaiterais faire
quoi? Moi, j'aimerais bien rentrer dans la gestion forestière, parce que du coup, j'ai fait un stage. Donc moi, je suis en filière STAV, donc sciences techniques de l'agronomie vivante, donc dans un lycée agricole. Et j'aimerais bien plus tard rentrer dans la gestion forestière, parce que bah, c'est quelque chose qui m'intéresse. La forêt, j'adore y aller. Enfin, je me promène beaucoup là, en forêt. Enfin, j'adore tout ce qui est affût, etc. Et donc, plus tard, j'aimerais sûrement faire mon métier. Enfin, en tout cas, aller dans, sur des études de gestion forestière.
Et tu rencontres aussi des adultes justement atteints d'un nanisme qui peuvent te guider ou si tu as des questions à te poser, c'est pas tes parents qui peuvent répondre à toutes tes questions.
C'est ça, exactement. Bah, et puis, j'en ai déjà rencontré, hein, j'ai déjà pu évoquer avec des personnes et tout, après pas énormément. Et puis bah après en forme de nanisme aussi on a tous, enfin les nanismes sont très différents, il y a des personnes qui sont atteintes de nanisme beaucoup plus sévère, donc là ça va être plutôt des tailles de 1m20 voire 1m10, vraiment plus petite que moi encore, je suis dans un nanisme assez grand, on va dire ça comme ça, parce que bah la limite est donc à 1m40 chez les femmes et je fais 1m38, donc pour certaines choses oui je leur ai demandé un peu comment ils sont dans la vie, etc. Puis après j'avoue je découvre par moi-même, parce que bah comme on a un handicap tous un peu différent, c'est un peu aussi la surprise. C'est aussi la surprise dans les aménagements, parce qu'on a tous des aménagements différents. En fait, moi encore, j'arrive à me débrouiller sur certains trucs, mais où j'ai des besoins d'aménagement que eux n'auraient pas besoin, ou eux ils ont besoin d'aménagement que j'aurais pas besoin. Donc ça dépend. En fait, c'est un peu de l'aménagement sur les aménagements, ou même dans la vie, c'est un peu du sur-mesure, parce que bah ça dépend aussi des pathologies, parce que bah effectivement donc le nanisme qui est atteint, donc qui fait que on fait une petite taille, mais derrière c'est de nombreux problèmes de santé autres, donc notamment problèmes osseux bien sûr, mais ça peut être de la surdité, ça peut être vraiment plein de problèmes que même les médecins ne peuvent pas prédire en avance. C'est en fait une maladie un peu, moi je l'appelle un peu la Kinder surprise. C'est on ne sait pas exactement ce qu'elle peut nous prévoir, et ça peut vraiment arriver tout au long de notre vie. En fait, ça arrive pas tout d'un coup. Et donc en fait, bah dans l'anisme tout est différent. En fait, enfin chaque personne a son est différente.
Bon, on va faire une petite pause musicale. Alors
Zélie, c'est quoi la surprise?
Tu as choisi avec mon super accent, Billie Eilish, Chihiro. C'est bien ça?
C'est ça.
Eh ben, on se retrouve tout de suite.
À tout de suite. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like I change, you could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today. Open up the door. I know you said before.
when you found me. I was waiting in the garden, contemplating, beg your pardon. But there's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? When you told me it was serious, were you serious? They told me they were.
Alors, nous sommes de retour dans l'émission 30 minutes de bonheur où nous recevons Zélie et Sacha. Alors, Zélie, tu viens nous présenter l'association Une Marche de Taille. Mais il me semble que Sophie, tu as des questions à poser à Zélie. Nous t'écoutons.
Quand on parle, comme tu as 18 ans, il y a le permis de conduire.
Exactement.
Donc, je parlais des études tout à l'heure. Et le permis, ça se passe comment pour le permis?
Donc déjà, le permis, il a été avancé donc maintenant à 17 ans, depuis janvier 2024, où on peut passer le permis. Donc moi, je l'ai passé à mes 17 ans, parce que j'ai eu 18 ans il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait un an que j'ai eu mon permis. Et moi, le permis, c'est un peu une aventure. Moi, j'ai commencé, dès 15 ans, je voulais conduire depuis vraiment longtemps, je voulais conduire. Et ma mère était partante pour ça, donc dans le but de faire vraiment conduite accompagnée. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc très vite, on s'est posé la question quand même du fait si je pouvais conduire ou pas, parce que avec une boîte manuelle, le fait d'avoir un embrayage, ça pose problème. Donc j'ai testé dans une auto-école qui fait toutes les conduites, dont la conduite en dit conduite, avec vraiment une monitrice spécialisée dans ce domaine-là. Et elle m'a testé donc une boîte manuelle classique. Et là, on s'est vite rendu compte qu'on a vite oublié l'embrayage. Que c'était impossible. Donc on s'est dit on va pouvoir essayer de passer en boîte automatique. Donc en boîte auto, on a essayé tout. Alors on a vu que c'était pas hyper adapté, mais que ça pouvait le faire normalement. Donc j'ai quand même vu une inspectrice du permis de conduire, donc en fait qui est une inspectrice qui est spécialisée en plus dans les problèmes, les permis un peu spéciaux. Et donc là en fait, on voulait lui demander si elle était sûre en me voyant de conduire que lors de mon passage d'examen, les inspecteurs me diront rien en fait par rapport, parce que je conduisais vraiment très proche du volant. Et elle m'a confirmé que effectivement c'est pas une conduite qui était super agréable pour moi, et même en termes de sécurité, c'était pas le top, mais ça pouvait passer, et qu'après fallait réfléchir par contre à des aménagements donc du véhicule. Donc après ça, on s'était dit ok, on part sur une conduite accompagnée, mais il a fallu déjà faire un investissement de voiture du côté de ma mère, parce que elle avait une voiture en boîte manuelle, donc elle a dû revendre la sienne pour acheter une boîte automatique. Donc après j'ai passé mon code, j'ai commencé les heures de conduite, donc tout ça, il y a eu un délai parce que le temps de racheter une voiture, etc. Et donc j'ai passé mon code, j'ai commencé les heures de conduite, et après à peu près 19 heures de conduite en boîte auto classique, on s'est vraiment rendu compte que j'arrivais en tant que tel à conduire, que j'étais à l'aise, mais que par exemple en termes de manœuvre, j'étais tellement rapprochée du volant, c'était pas top. Et même ma monitrice avait peur, parce que en fait si on avait un accident, clairement si l'airbag explosait, il explosait dans ma tête, et en fait ça faisait le coup du lapin et ça risquait de mal finir. Et donc on a revu l'inspectrice, et là l'inspectrice donc elle m'a vraiment vu conduire, parce que la dernière fois j'avais conduit un petit peu, mais j'avais pas fait d'heure de conduite, donc elle avait pas pu me faire conduire énormément. Et là, elle s'est rendu compte, elle a dit, ah non, c'est pas possible, tu peux pas passer ton permis en boîte auto classique, ça va poser problème. Donc après ça, ça a été un peu la douche froide et tout, et ça a été de trouver, de comment faire, parce que entre temps, j'avais fait donc aménager la voiture de ma mère avec des aménagements. Donc c'est une entreprise, donc Sojadis, c'est un garage spécialisé à Jalet, donc dans les Mauges, et eux, ils vont vraiment faire tous les aménagements possibles pour la handiconduite, donc que ce soit notamment les commandes au volant pour les personnes qui ne peuvent soit atteindre de nanisme vraiment où leurs pieds ne touchent pas le plancher, ou alors tous les gens qui ne paralysés, etc. Enfin, qui doivent conduire avec les commandes au volant ou d'autres adaptations. Et donc j'avais fait adapter ma voiture donc avec donc des surpédales, donc c'est des sortes de cales beaucoup mieux, enfin plus améliorées, qui permet donc de reculer plus mon siège, en fait, parce que ça me permet en fait de reculer, donc de pas être collé au volant. Et ils m'ont rehaussé également le siège, parce que souvent les sièges de voiture, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais ils sont un peu penchés. Ouais, ils sont un peu en pente, et donc ce qui fait que quand on est petit, c'est vraiment pas pratique. Donc là, ils me l'ont rehaussé. Ils ont également mis un surplancher, en fait, pour permettre que quand je manipule mes pédales, que j'ai le talon au sol, et que en termes de confort aussi, en termes même de mon dos, ça soit plus confortable. L'inspectrice, à la suite de ça, elle voulait pas me faire passer, ce que l'idéal serait été commande au volant, mais elle voulait pas me refaire payer des aménagements, parce que déjà moi je ne peux pas payer les aménagements. Du coup, faut demander une PCH, donc prestation de compensation du handicap. Et le nanisme, faut savoir qu'en France, il est pas reconnu pour le moment comme un handicap aux yeux de la loi, et donc ce qui fait que la PCH, donc prestation de compensation du handicap, qui est en fait une aide qui est donnée donc par les maisons départementales de l'autonomie, donc que ça soit des aides au logement, des aides du coup d'aménagement du véhicule principalement, ils m'ont été refusés, malgré que j'ai fait appel, je les ai également emmenés au tribunal. Mais en fait, eux, ils s'appuient sur la loi, et la loi dit clairement que c'est pas un handicap. Donc, je me suis retrouvée à payer moi-même les aménagements. Donc, c'est quand même plus de 1 200 €. Donc, c'est un investissement. Enfin, c'est quand même.
Juste le permis.
C'est ça, exactement. Et je me dis encore, moi, je suis pas à plaindre parce que ma famille peut le payer, mais il y a des gens clairement qui peuvent pas le payer. Et alors que le permis, c'est quand même quelque chose d'hyper important, l'autonomie. Alors déjà, ça coûte cher. Si en plus on doit rajouter ces aménagements-là, ça fait une forme de discrimination énorme et qui ne devrait pas être le cas, parce que tout le monde devrait pouvoir passer son permis. Et donc là, l'inspectrice a été quand même très chouette, et elle m'a autorisé en fait à passer en fait mon permis. Donc j'ai fini mes heures de conduite en commande au volant. Donc en fait, j'ai fait un double permis. Donc j'ai passé mon permis officiel en commande au volant, et elle a accepté donc 15 jours plus tard, après avoir passé mon permis donc officiel, de me revoir donc avec ma voiture qui est aménagée. Et j'ai conduit avec. Elle a vu que les aménagements étaient adaptés. Et donc sur mon permis, elle m'a fait une modification parce qu'en fait c'est des codes en fait sur le permis qui dit qu'on doit avoir des aménagements supplémentaires. Et donc à la suite de ça, j'ai mis donc elle m'a modifié mes codes, et ce qui fait que maintenant j'ai le droit de conduire que ma voiture, parce que du coup c'est les aménagements sur plancher et sur pédale. Il y a que ma voiture qui est équipée de ça, mais ça a été un long combat, parce que de base je devais faire conduite accompagnée, et au final le temps a, on va dire, pressé. J'avais 17 ans, le permis on pouvait le passer à 17 ans. Puis je me suis retrouvée en lycée agricole, donc qui est plus loin d'Angers, donc fallait que je fasse de la route. J'avais des stages aussi à faire, donc et mes stages sans voiture, j'aurais pas pu les faire. Donc au final, j'ai passé mon permis directement, et je l'ai eu du premier coup. Mais c'est vrai que ça a été un peu le parcours du combattant, et c'est vrai que ça m'a un peu frustrée aussi, parce que j'ai plusieurs amis qui l'ont passé, et eux en 6 mois, enfin tout était réglé, quoi. Moi, j'ai attendu 2-3 ans, le temps de faire des rachats de voitures, le temps de faire les aménagements, le temps de voilà. Et c'est vrai que c'est, et puis surtout la PCH que j'attendais depuis longtemps, et au final que j'ai jamais eu, quoi.
Ouais, je comprends. Bon, et le temps passe vite, Zélie.
Déjà, c'est ça.
Mais c'est super que tu sois venue.
On voulait parler du sport. Mais
On voulait parler du sport aussi, mais bon, les 30 minutes ne peuvent pas faire 40 minutes.
C'est vrai. On a dit qu'on changerait le timing de l'émission.
Donc, merci d'être venue.
À dire vite fait aux auditeurs, aux auditrices, pour changer le regard. Quelque chose qui...
Malgré un handicap, en fait, faut pas avoir peur. Même si on a atteint un handicap, on est capable de plein de choses. Et que c'est pas, faut pas se fier à son handicap.